France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Meubler son intérieur, une histoire utile et agréable. Oh, la belle armoire de papa. Ah, la grandiose salle à manger de maman. Mais est-ce que cela convient pour meubler son intérieur? Parce que, au-delà des meubles qui ont été hérités, d'autres sont achetés chez le menuisier. Ce sont des pièces uniques. Mais voici qu'apparaît le meuble en série, dessiné de manière nouvelle. Un nouveau monde.
Avez-vous l'impression que de notre époque, un style commence à s'affirmer?
Le design est à la mode.
À tous les échelons, la transformation vers la révolution est actuellement évidente.
Chacun veut utiliser des objets de son époque, et non pas
êtes-vous pour
des reprises d'époque passée.
Êtes-vous contre?
Le cours de l'histoire.
Êtes-vous pour?
Êtes-vous pour Pierre Janset ou êtes-vous contre?
Inévitablement pour.
Bonjour Stéphane Laurent également. Pierre Janset, vous êtes historien du design, spécialiste de la reconstruction et des années 1950. Stéphane Laurent, vous êtes maître de conférences en histoire de l'art à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans ce que nous venons d'entendre pour ouvrir l'émission, il y a l'idée de la nouveauté et de l'héritage. On peut dire quand même que sur des temps très longs pour la réalité des gens, bien souvent les meubles étaient hérités. On avait les meubles des parents, il n'y avait pas tellement de nouveautés. Ou s'il y avait de nouveautés, elles étaient en marge de ce qui avait été hérité, on peut le dire un peu comme ça?
Oui, on peut le dire un peu comme ça. Effectivement, on va réinventer les meubles que dans des périodes presque de crise. Je pense aux deux guerres mondiales notamment, hein, qui vont obliger à reconstruire, à repenser. Et ces effacements-là conduisent finalement à des réflexions sur comment renouveler. Et effectivement, sinon on héritait, voire il y avait des grands moments dans la vie. Hein, vous en parliez hier, notamment le mariage, l'armoire de mariage, où un meuble pesant hein, qui ancrait un peu dans la vie. La modernité, c'est peut-être, ça va être d'alléger ça. Et le design, c'est peut-être ça. Mais là, je vais laisser la parole à Stéphane Laurent pour le design.
Oui, moi, je pense qu'il y a, en ce qui concerne la modernité, en fait, une volonté qui se dessine dès l'Art Nouveau, dès 1900. Et qui effectivement utilise ces moments de la vie, hein, comme dit Pierre Janset, c'est-à-dire qui vise beaucoup les jeunes ménages ou des personnes aisées qui changent de statut social et qui veulent donc se remeubler moderne pour s'afficher notamment une bourgeoisie qui est industrielle et commerciale et qui va s'affirmer un petit peu contre la bourgeoisie traditionnelle ou l'aristocratie qui se meuble plutôt en style, en copie de style. Et donc la modernité, ça va être un moyen finalement de s'affirmer de cette manière. Et c'est vrai que lorsqu'il y a la reconstruction, surtout après 45, et bien à ce moment-là, il y a une chance considérable qui est donnée à la modernité parce qu'elle va avoir des appuis, notamment auprès du ministère de la Reconstruction. Et du coup, bien là, c'est un champ énorme qui s'ouvre de réalisation.
Stéphane Laurent, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Le design en France, deux siècles d'histoire » publié aux éditions du CNRS. Deux siècles d'histoire quand même. Les deux siècles sont importants parce que nous parlons de la reconstruction, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Mais vous, vous regardez encore plus loin. Pourquoi d'ailleurs deux siècles d'histoire?
En fait, j'ai une approche d'historien et le livre, il est en fait sur l'idée de bâtir une différence par rapport aux arts décoratifs qui sont plus dans l'artisanat, dans l'objet unique, voire la petite série. Et le design, au contraire, c'est l'industrie, c'est donc la révolution industrielle. Donc logiquement, si on suit la problématique de cette mécanisation, de ces usines, de ces procédés très innovants, ces multiples brevets qui sont déposés à partir de la fin du XVIIIe siècle. Du coup, on se penche un petit peu en arrière. Et puis, en fait, on découvre que le design, il existe avant le design et qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'art industriel. Et que l'art industriel, c'est du proto-design. Exemple, les fontaines Wallace, c'est fait en fonte, c'est produit en série. Mais c'est très ornemental. Alors voilà, c'est pas la géométrie qu'on accorde habituellement au design, mais c'est quand même du design dans le principe. Donc voilà, c'est une réflexion, disons, d'historien et qui cherche à analyser le phénomène.
Un phénomène sur un temps long, c'est toujours beaucoup plus intéressant, Pierre Janset.
Oui, alors maintenant j'habite à Reims, je tiens à le préciser, c'est une ville de la première reconstruction. Et du coup, effectivement, on voit un peu comment cette industrie autour de la maison, puisque c'était le sujet d'ensemble, va se greffer progressivement. Et dans la maison, il y a quand même une sociologie à prendre en compte. C'est-à-dire, par exemple, l'habitat ouvrier, on va pas regarder dedans. dans la première reconstruction, on regardera plutôt dans l'habitat bourgeois, et l'industrialisation va plutôt se plaquer sur la façade. On connaît tous les ferronneries art déco qui vont envahir à Paris comme à Reims, hein, un peu partout, les céramiques, tout ça est produit en série, mais le meuble, pas encore. Alors il y a des premières tentatives quand même, après la Première Guerre, par Suémar, qui vont essayer de faire des meubles pour les sinistrés, mais on est dans l'idéologie. Personne, alors Suémar, on voit le luxe, hein. Mais là, ils essaient d'abaisser les coûts, mais en réalité, c'est pas possible. Et finalement, on est presque à la débrouille sur les meubles de sinistrés à la Première Guerre. La deuxième étape avec la Seconde Guerre, c'est que cette fois-ci, on va regarder à l'intérieur. Parce qu'il y a eu un glissement social où des classes moyennes, on sait qu'elles vont surgir. Et là, du coup, on va pouvoir ouvrir un peu l'espace des classes moyennes et intégrer le meuble, en fait, dans cette production de masse qui va lentement arriver jusqu'à nous, en fait, monsieur et madame tout le monde, oui, nous présenter ainsi.
Nous en sommes les héritiers, parce que sur le temps long de l'histoire du meuble, il y a, on peut le dire, presque que des pièces uniques pendant très longtemps. L'ouvrier fabriquait le meuble et qui n'était pas exactement le même qu'il allait fabriquer quelques temps plus tard. Il allait adapter sur des petites choses. La grande révolution ou le grand processus de changement au temps de l'industrialisation, c'est sans doute ça, c'est de mettre des aspects industriels dans la fabrication des meubles.
Alors, en fait, il y a une mécanisation qui existe depuis le milieu du 19e siècle. On a par exemple un établissement qui s'appelle Krieger et Damon et qui fournit les grands magasins. Donc les grands magasins, ça représente à peu près 20% du marché du meuble jusqu'aux années 50. Grands magasins, donc, qui ont des succursales ou qui sont présents, qui maillent un peu le territoire, hein, c'est pas qu'à Paris. Et il y a à côté de ça des grands magasins d'ameublement, etc. Donc on se rend compte qu'en fait, assez tôt, dès le 19e siècle, il y a une volonté quand même d'aller vers le bon marché, vers des produits qui sont plus accessibles, mais l'outil industriel, il va rester quand même sur la petite série, alors que dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, on a déjà une sérialisation très forte qui apparaît dès le tout début du 20e siècle. Du coup, ça stimule un peu la France, notamment ceux qui veulent faire du mobilier moderne, hein, les créateurs, à se pencher un petit peu plus vers cet aspect-là, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'outil de fabrication. Et puis quand on parle mobilier, on parle aussi, on dit édition. Édition, c'est quoi? C'est fabrication et commercialisation. Donc il faut ces deux aspects-là, en fait. Et là, on est sur beaucoup en province, notamment des magasins de meubles, disons de confiance, qui sont bien établis. Après, c'est des grands magasins. Bon, à Paris, on a des enseignes comme Bûcheron, donc c'est assez diversifié avec du style et puis quelques réalisations modernes, notamment donc comme j'expliquais pour les jeunes couples. Mais voilà, c'est un lent parcours parce que l'outil industriel n'est pas là, parce que la force commerciale n'est pas là, et du coup, il faut bâtir tout ça et ça prend du temps.
Voilà, nous avons quelques planches et nous fabriquons notre meuble, mais il y a ce style que vous venez d'évoquer. Le style, il est là dans notre histoire aussi.
Oui, effectivement. Alors, je pense que vous avez mis le mot moderne. La vraie question, effectivement, c'est pas de produire industriellement l'objet, mais de produire industriellement un objet qui répond à son temps. Alors, je pense que si on affine un peu la définition du design, et en allant vers son temps, au fur et à mesure, cette part-là de la modernité va gagner sur les catalogues. On peut jouer à regarder les catalogues Lévitant des années 20 jusqu'aux années 60, et on voit la part moderne gagner sur les parts historiques, hein, parce que le meuble Henri II, hein, d'abord, et puis ensuite Renaissance espagnole, tous ces meubles très lourds qui représentaient l'héritage historique, vont être gagnés par des styles. Alors d'abord, il y a le style qu'on appelle hollandais, hein, qui est déjà un style Art Nouveau très très léger, qui anticipe presque le mouvement moderne. Et puis surtout, il y a des tentatives de décorateurs eux-mêmes. Alors j'ai beaucoup travaillé sur René Gabriel, qui dès 1925 va dire il faut repenser le meuble en fonction de la chaîne de production pour pouvoir le diffuser en masse. C'est un renversement par rapport à la pensée de l'art déco où Ruhlmann disait il n'y a que les très riches qui peuvent nous permettre de créer parce qu'ils ont des budgets illimités et donc on pense librement. Donc voilà, la pensée sous contrainte de Gabriel, pour des raisons d'utilité, hein, c'est le mot-clé de l'émission, mais une utilité à la fois sociale et puis forcément, si on veut abaisser les coûts, le rendre pratique, une utilité domestique, va basculer un peu le raisonnement, mais dès 1925. Hein. Par contre, il n'y a pas encore la clientèle. Donc voilà, on viendra, après on parlera de 36, tout ça, mais c'est vraiment des moments où on est déjà prêt, finalement, mais peut-être que l'ouvrier, lui, n'est pas prêt. Enfin, quand je dis ouvrier, c'est un peu cliché, mais on va dire le français moyen n'est pas prêt à acheter ces meubles-là. Lui, son rêve, c'est d'avoir le buffet Henri II. Donc voilà, c'est aussi une affaire de demande, hein, évidemment, le design.
Et oui, c'est du commerce, et René Gabriel, designer, c'est le meuble en série, parce que nous avons ici des temps, et nous l'entendons, ce mot modernité, on voit bien, c'est un mot qui naît d'ailleurs au 19e siècle, sous la plume de Charles Baudelaire, c'est quand même pas mal, avec des moments, hein, l'art nouveau au tout début du 20e siècle, l'art déco dans les années 1920, et vous, Pierre Jansset, vous venez de citer à plusieurs reprises l'année 1925, c'est signifiant cette année-là dans l'histoire qui nous intéresse.
Oui, ça chahute tout, effectivement. Bon, on connaît tous Le Corbusier, hein, l'esprit nouveau, qui commence déjà à raisonner un habitat qui va se ranger comme ça, comme dans un casier à bouteilles. Donc, il y a déjà un raisonnement très évolué. Pense aussi les meubles, Le Corbusier. Hein, faire des petits casiers qu'on va superposer pour faire des rangements, qu'on peut acheter donc par petits bouts, qu'on peut réagencer, donc on peut les avoir à vie comme l'ancien meuble, mais les recombiner pour s'adapter à des changements de vie aussi. Donc ça, c'est une pensée très moderne. Et Gabriel va les produire en série dès les années 30, ces casiers-là. Donc il va répondre un peu à Le Corbusier, mais dans une version très économique. Hein. Pour reprendre l'exemple, 34-36, il arrive à descendre au-dessous d'un mois de salaire d'ouvrier pour un salon complet, ce qu'aujourd'hui on rêverait d'avoir. Voilà. Mais par contre, les clients sont pas forcément là, ils restent toujours dans les beaux quartiers parisiens.
Et c'est ça, hein, c'est qui va pouvoir drainer cette demande en 1925, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Ce temps-là de l'innovation n'est pas exactement le même temps de la diffusion. On a cité ici le nom de René Gabriel, un designer. Nous sommes avec des artistes, des inventeurs. Et après, il faut que cela corresponde à une demande, sinon ça ne fonctionne pas.
Oui, absolument. Donc, on a cette volonté d'imitation sociale, de sorte de mimésisme, pour employer un mot un peu savant, qui fait que quand on a un photographe, par exemple, en 1913, s'appelle Eugène Adjet, et qui va photographier tous les intérieurs, quel que soit le niveau social. Donc, ça va être le bourgeois, l'ouvrier, l'aristocrate, l'artiste. Et on se rend compte qu'en fait, ils se meublent tous un peu pareil, sauf l'artiste qui est un peu plus dans la modernité. Mais c'est de qualité évidemment très variable. Hein. Il y a une fabrication, il y a un goût plus ou moins acceptable. Mais disons que c'est à peu près homogène. Donc effectivement, ce que disait Pierre Jansset, c'est que il y a tout un travail de conviction qui va devoir s'opérer vis-à-vis de cette clientèle visée. Alors c'est ce qu'on appelle à l'époque il y a un courant de l'art nouveau qui s'appelle l'art social et qui dans lequel des gens comme René Gabriel vont ensuite aller. C'est une volonté donc d'ouvrir la modernité de transformer le cadre de vie, le quotidien de chacun. Et ça, c'est effectivement une vraie gageure. C'est un courant social marqué à gauche politiquement et qui va être aussi celui de l'UAM, hein, avec des gens comme Charlotte Perriand et effectivement donc Le Corbusier d'une certaine manière. Mais c'est vrai que René Gabriel va plus loin parce que lui va produire, va être faire un vrai travail de production avec des fabricants. Il ne va pas se contenter de proposer des modèles, il va aller plus loin. Mais quand même, je dirais que l'art déco, dès les années 20, a été la première manifestation de cette volonté de démocratisation, dans le sens où il y a eu en fait une espèce de cohésion nationale qui est très typique de ce qu'on appelait à l'époque la chambre bleu horizon qui a suivi donc la Première Guerre mondiale et le côté revanchard vis-à-vis de l'Allemagne, en sachant que l'Allemagne avait déjà été un peu dans la sérialisation et dans une forme de proposition proposition de démocratisation dès les années 10, avec le Deutsche Werkbund. Et du coup, ben, la France a voulu prendre un petit peu sa revanche. Et donc, l'expo de 25, c'est une expo complètement fabriquée. Donc, pendant la guerre, on a des comités régionaux d'art appliqué qui rendent des rapports à un comité national d'art appliqué avec des moyens de transport très difficiles. Et ces comités, en fait, façonnent le style art déco pour essayer de trouver un compromis entre tradition et modernité, pour pas trop choquer le public et en même temps amener un peu de modernité. Et donc, en fait, on a deux art déco. On a un art déco de luxe avec Ruhlmann, etc. Mais on a aussi celui qui est produit par les ateliers des grands magasins, comme la maîtrise des Galeries Lafayette, Pomone au Bon Marché, Primavera au Printemps. Ils sont dirigés par des décorateurs et qui travaillent avec tout un tissu de petits fabricants dans la céramique, dans la verrerie, dans le mobilier, bien sûr, et qui permettent quand même une première entrée d'une forme de modernité aseptisée, d'un style art déco dans les intérieurs. Donc ça prépare le terrain quand même pour finalement des opérations un peu plus radicales ou un peu plus audacieuses, c'est-à-dire vraiment d'épuration des formes et ensuite d'aller vers la sérialisation.
Stéphane Laurent, vous avez cité l'UAM, c'est bien cela, de quoi s'agit-il ?
Alors l'UAM, l'Union des artistes modernes, c'est en fait une association de gens pas contents, de décorateurs. Alors ce mot décorateur, il apparaît au début du XXe siècle, c'est des cols blancs, c'est une nouvelle profession, c'est des gens qui conçoivent mais ne fabriquent pas. Donc c'est des architectes d'intérieur, des designers, hein, conçoivent du mobilier, des objets de décoration, des décors des intérieurs. Ils ont leur salon, ils ont leur société des artistes décorateurs. Et progressivement, en fait, bon, ils s'engagent dans l'art déco, ils soutiennent l'art déco, ils sont partie prenante, ils ont l'appui de la presse, l'appui des institutions. Donc c'est ce côté un peu cohésion que j'expliquais. Ce style, en fait, il va s'épuiser assez rapidement dans les années 20. Et puis, il y a de toute façon deux tendances. Il y a une tendance qui est plus traditionnelle, qui regarde un peu vers le 18e siècle, vers les styles anciens. Et puis, une autre qui va essayer déjà plus de géométrie, plus d'épuration, etc. Qui est représentée par des gens comme Malé Stévens, Pierre Charot, par exemple, qui font partie de ce mouvement au début. Et l'art déco, en fait, pourquoi c'est un style éphémère ? Parce que, après la chute de la monarchie, là c'est l'historien un peu qui parle, après la chute de la monarchie, on n'a plus de, et après Napoléon surtout, on n'a plus de goût dirigé par la cour. Donc ça, c'est ce qu'explique un philosophe qui s'appelle Gilles Lipovetsky. Et donc, on rentre dans un cycle de mode. Et donc, les styles, en fait, ils ne le savent pas, mais en fait, leur style va s'épuiser. Et du coup, ce courant moderniste va en profiter faire des propositions plus audacieuses. Et en plus, parce qu'ils voient que l'art déco est de plus en plus dominé par des grandes maisons de décoration. Et eux, ils font des choses dans l'affiche, ils font des choses dans l'orfèvrerie, dans la reliure, des choses à la fois plus modernes et plus spécialisées. Et donc, ils vont créer leur propre association en 1929 et leur manifeste un peu plus tard en 1932-34. Voilà. Et c'est donc ce courant-là qui va avoir beaucoup d'importance dans l'après-guerre.
Nous parlons des mouvements artistiques, hein, l'art nouveau, donc au début du XXe siècle, l'art déco dans les années 1920. Et à la croisée de tout cela, un mot qui a déjà été cité plusieurs fois depuis le début de cette émission, c'est design. Qu'est-ce que le design ?
Le ?
Design.
Je sais pas. Un dispositif, un truc comme ça, non ?
Le design.
Ouais.
Design. J'arrive même pas à déterminer la racine. Voiture, non ? Alimentation. Vous pensez aux lasagnes ? Un plat italien ? À base de pâte ?
Design.
Absolument pas.
D-E-S-I-G-N.
Non, aucune idée.
Donc c'est une recherche qui aboutit à une création de forme pour le cadre de vie.
C'est de l'esthétique, c'est de la décoration moderne.
C'est l'avenir, c'est le futur, c'est même très scientifique par moment. Le domaine qui me semble le plus approprié, d'abord peut-être dans les objets de la vie de tous les jours, les électrophones, les appareils ménagers, les machines.
En 1970, la définition du design sous mode de micro-trottoir. Pierre Jancet, qu'est-ce que le design ?
Alors, très, très belle question. Alors, j'avais fait moi-même un micro-trottoir quand je faisais visiter l'appartement témoin Perret au Havre. Et je demandais toujours qu'est-ce que le design ? Alors, les réponses étaient généralement c'est un truc de forme bizarre qui coûte très cher hein, et que personne n'a. C'est-à-dire strictement l'inverse de ce que veut dire, ou à notre sens on va dire, le mot design. Il y avait un petit accent anglo-saxon à la fin avec l'idée de futuriste. On va vers le futur dans le design et effectivement il y a peut-être cette portée-là qui est anglo-saxonne, peut-être pas très catholique, pas très adaptée à nos arts déco. Donc c'est assez intéressant de voir cette portée vers le futur. Dans l'après-guerre, on est plus dans l'esthétique industrielle. Le mot design, effectivement, va arriver dans les années 60. J'ai même retrouvé dans une revue de décoration un article « Qu'est-ce que le style design ?» dans les années 70. Donc, même les experts de l'époque ne savaient pas trop cadrer l'objet. Mais je vais laisser Stéphane Laurent mieux le cadrer que moi, parce que c'est son domaine.
Cadrez-nous ça.
Je vais essayer de cadrer ça. Alors, le mot design, c'est un mot anglo-saxon, hein, on s'en doute un peu. Il arrive dans le petit Robert au début des années 2000. Avant, moi, je me souviens sur les logiciels Word sur Mac des années 90, était toujours souligné comme quoi c'était une erreur de frappe, il y avait un problème. C'était un mot anglo-saxon qu'il fallait mettre en italique, peut-être, au mieux. Alors, en fait, c'est un mot qui est très ancien. Hein. Il apparaît en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Et ensuite, il est très utilisé au XIXe. En fait, c'est l'idée du projet. Et en même temps du projet dessiné. Voilà, et c'est un vieux mot français en fait au départ, qui s'appelle design, si la prononciation est sans doute pas bonne, qui remonte au XVIe siècle et qui a donné ensuite le mot dessin, D-E-2-S-E-I-N, et qu'on n'a pas conservé, qui était encore utilisé au XVIIIe siècle et qui a la même définition, c'est-à-dire c'est un dessin aujourd'hui, c'est avoir un projet, mais à l'époque ça voulait dire aussi dessin dessiné. Donc c'était la même orthographe. Et si on avait conserver ça, on utiliserait sans doute ce mot-là aujourd'hui. Et après, il a effectivement, comme disait Pierre Janset, ça a été compliqué pour lui d'arriver, parce qu'il avait une connotation en France, parce qu'il avait une connotation très anglo-saxonne. Et du coup, on lui a fait une traduction un peu bizarroïde qui s'appelle esthétique industrielle. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Viennot, qui était assez influent hein, dans ce milieu des arts appliqués, parce qu'en fait, il y a plein de mots, arts décoratifs, arts appliqués, ou des arts industriels. Et c'est lui qui a un peu compliqué les choses. Il a fait une traduction qui plaisait pas trop et on est resté ce mot-là, esthétique industrielle, est resté encore jusqu'aux années 70 et donc il a fallu progressivement faire que ce mot anglo-saxon soit accepté et voilà, donc ça, on arrive aux années 2000 quand même hein, pour que ce soit dans le langage courant.
Oui, ce n'est pas une évidence hein, Pierre Janset.
Oui, on est projeté un peu dans le futur là, alors je vais peut-être faire un petit comeback vers la reconstruction, parce qu'effectivement, quand Jacques Viennot essaie d'imposer ce mot esthétique industrielle, c'est essentiellement à travers une revue qui est publiée vraiment en 45, 49 à peu près. Il porte d'ailleurs le design de la reconstruction, et il va vanter Gabriel, dénoncé comme Gascoigne, que j'ai pas assez cité, qui est un décorateur qui, lui, va reprendre Gabriel en s'inspirant un petit peu plus de ce qui se fait à l'étranger, puisqu'à l'époque, il y a déjà, on va dire, des styles qui se définissent. Alors, vous aviez fait une émission sur la France, mais là, voilà, la France essaie de se définir maintenant sur un secteur qui est de plus en plus concurrentiel aussi. Voilà, c'est le moment où le cosy anglais va s'inventer, où le scandinave s'invente aussi. Tout ça est synchrone, hein. Faut pas dire ça découle du scandinave. Non, non, tout ça s'invente vers 37 et puis se diffuse après la Seconde Guerre mondiale. Et puis le style italien très débridé. Voilà, tout ça se cristallise là et on essaie de trouver quelque chose qui va remettre le meuble français sur le devant de la scène parce qu'il a beaucoup de mal. Déjà parce qu'on manque de moyens. Hein. Juste après-guerre, on a pas de matériaux, c'est pour ça qu'il y aura très peu de design métal après-guerre. Hein. Ce sera surtout du bois et du bois local, parce qu'avec les colonies ça marche pas, puis ça remarchera plus avec la décolonisation, il va falloir se réinventer à chaque fois, et on voit à chaque crise historique, les matériaux, les formes se renouveler pour répondre aux attentes qu'on croit être sociales, et qui le sont effectivement, parce que dans la reconstruction, ensuite dans les grands ensembles, des tas d'espaces se déploient et il faut les meubler. Donc ça devient une question très pratique. La France rurale, effectivement, était peu meublée. La France urbaine va être beaucoup plus meublée, les espaces se spécialisent. Le chauffage, vous aviez le feu. le feu, ça concentre un peu la population autour. Là, on a un chauffage qui chauffe toute la maison. Donc, on va pouvoir réellement s'étendre à toute la maison et réfléchir chaque pièce. On sort de l'unique chambre de jeune fille, on va arriver à la chambre des parents, la chambre des enfants. Voilà, tous les espaces se spécialisent après-guerre, ce qui explique pourquoi cet intérêt aussi pour le meuble qui est assez typiquement d'après-guerre. Le héros de l'après-guerre, c'est le décorateur qu'on appelait, qui deviendra le designer. On le voit, hein, Paulin, quand il arrive à la maison de la radio, c'est un héros qui va meubler la maison de la radio. Voilà, on a un héroïsme du designer qui aujourd'hui est un peu étouffé, évidemment, puisque la société de consommation marche sur d'autres codes. Mais voilà, donc c'est assez important de souligner l'après-guerre dans cette émergence d'un concept avant d'avoir le mot, finalement, design, qui va venir compliquer pas mal les choses. Hein. Je pense qu'on est d'accord.
Oui, là, c'est vrai que sur cette définition du design, nous sentons bien qu'il faut le replacer toujours dans son contexte et que le mot évolue lui-même. Et puis, Pierre Jancet, vous venez de l'évoquer, il y a des mouvements sociaux qui s'expliquent que sur la longue durée. La guerre, c'est une chose, mais il y a ces mouvements, par exemple, dans la maison, ces pièces, ces espaces spécifiques, la chambre des parents, la chambre des enfants. Hein, vous avez écrit « Mobilier design pour enfants » avec Carole Dapray. Ça, c'est spécifique aussi parce que avec l'apparition de la chambre d'enfant, se pose la question, comment meubler cette chambre?
Voilà, alors ça c'est un objet très amusant, la chambre d'enfant, parce que on reste dans la nurserie très longtemps, hein, quand même. Donc c'est un espace fermé presque où les parents ne viennent pas. Et puis va venir après-guerre, il y a le baby boom, donc la multiplication des enfants. On est obligé de réfléchir à cet espace particulier. Et on va d'abord, la première qui se projette, elle est assez amusante, c'est une chambre école. Voilà, la République est derrière quand même. Hein. C'est l'État qui finance tous ces projets d'appartements modèles. Et donc on va vanter une chambre école où il y a toujours le tableau noir, pupitre, quelque chose qui tient du dortoir aussi. Il y a toujours deux, trois lits, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, filles et garçons séparés. Évidemment, voilà. Et puis des meubles rationnels assez abordables qu'on peut aussi acheter. Toujours l'idée d'acheter par petits bouts, hein, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on va pouvoir les adapter. Un meuble sur crémaillère, par exemple, le secrétaire on le met bas quand il est petit, puis on le remonte au fur et à mesure qu'il grandit. Des meubles évolutifs, ça c'est typique, on va dire, d'une nouvelle pensée du meuble que vont s'approprier les gens. Sinon, on participe du progrès. Et ça va permettre vraiment d'attirer le regard. Hein. On sort, voilà, de l'espace enfermé, de l'espace de luxe, pour être effectivement dans cet utile qui reste agréable et qui est utile quand même, voilà, chez soi.
Et puis il y a beaucoup de séduction dans cette histoire-là, les magazines, vous les avez cités, les catalogues. C'est ça aussi l'histoire du design, Stéphane Laurent, c'est qu'il y a ces beaux catalogues avec de magnifiques photos et des intérieurs dont on peut rêver, mais en réalité, on se dit, est-ce que j'arriverai à vivre là-dedans? Mais c'est le design au sens de luxe, et c'est vraiment, si on veut comparer au monde de l'automobile, les grosses berlines. Et puis après, il y a la réalité du design, ce qu'on trouve dans les magasins, et ce que les gens peuvent acheter, parce que c'est accessible. Le design est partout, et c'est vrai que dans l'imaginaire qui porte le design, il y a souvent l'association au luxe, ce qui n'est pas le cas.
Oui, alors effectivement, donc il y a plusieurs catégories en fait. Ça va du Formica à Knoll ou Cassina. Donc on est sur des répertoires qui sont différents. Alors le design, il rentre vraiment de manière assez populaire dans les intérieurs, par la cuisine, parce que voilà, c'est un endroit un peu technique. C'est un endroit où on va avoir des tables à rallonge, où on va avoir donc arriver les éléments intégrés, ce qui n'existait pas avant, hein, parce que on n'avait pas des cuisines qui étaient efficaces, qui étaient rationnelles. Ça, c'est beaucoup lié à ces appartements témoins, ces propositions des designers des années 50. Donc ça, c'est accessible et ça marche pas mal. C'est très coloré, c'est du plastique, voilà. Mais pour le reste, pour le salon, pour les chambres à coucher, c'est plus compliqué. Donc on a un effort de la part des designers et également la mise en place d'un petit monde de l'édition qui se constitue progressivement dans les années 50 et qui va commencer effectivement à proposer du mobilier modulable, du mobilier qui peut être escamotable, voilà, qui peut être un petit peu disons évolutif, et là il y a des propositions donc de accessibles. Mais le problème, c'est que effectivement, le public a un petit peu de mal à suivre. Alors, il y a ces appartements témoins, il y a la presse qui est derrière, il y a des revues spécifiques qui se créent, et on a des belles photos en couleur, on a, voilà, ça donne envie, mais le public est toujours partagé, et on se rend compte que, bah, dans les nouvelles constructions, notamment pour les HLM, et bah, les gens, en fait, font une sorte de rupture avec l'environnement qui est très moderne, qui est assez répétitif aussi, et donc se constitue une espèce de cocon dans le rustique, dans les styles, avec des objets donc venant de la famille, hérités de la famille, et donc c'est pas évident. Ce qui fait que les magasins de meubles dans les années 50-60, ils ont toujours ils sont souvent dédoublés. Ils ont un magasin d'un côté de la rue ou juste à côté qui est classique et un autre qui est moderne. Et puis on a une petite catégorie vraiment d'une bourgeoisie intellectuelle, enfin une bourgeoisie cultivée, donc on va avoir des médecins, des architectes, des ingénieurs, enfin surtout des artistes qui vont là plébisciter un mobilier beaucoup plus d'avant-garde, plus audacieux. Et ça, c'est un segment de marché qui constitue à peu près 5-10%. C'est toujours la même chose aujourd'hui, c'est un mobilier de deux créateurs, un mobilier de deux créations. C'est Knoll, c'est Miller, ça va être aussi Cassina, etc. Et Artifor, etc., etc. Tout un tas d'éditeurs qui vont apparaître en France, en Italie, en Hollande, en Danemark, etc. Et là, c'est vraiment un second marché très, très particulier.
Pierre Jancet.
Oui, alors, et effectivement, c'est exactement ça. C'est un tout petit secteur, surtout avant 54. Hein, on est dans, on va dire, la période, elle est 45-55 pour arrondir, cette décennie-là où, quand même, l'économie est pas terrible. Donc, effectivement, les gens ont du mal. Ils veulent peut-être pas investir dans quelque chose qui est nouveau parce que c'est toujours un peu risqué. Donc, ils vont rester, effectivement, presque dans l'héritage. Et après 54-55, là où ça commence, les logements se démultiplient et puis les budgets vont beaucoup mieux. Cette fois-ci, quelque part, les architectes abandonnent un peu l'appartement témoin. On le retrouve de moins en moins dans les revues. Et le nouveau chic, eh bien, ce sera effectivement ce style international des grandes marques américaines, pour résumer. Un design très chic, très cher, très inabordable. Finalement, une fois que le meuble va réussir à se démocratiser, parce que là, on voit l'évitant, les catalogues sont presque que modernes à partir de la seconde moitié des années 50, il reste plus grand chose, on va dire, du rustique, eh bien, ça y est, c'est trop démocratique, donc les élites, quelque part, vont se recréer quelque chose de moins abordable pour marquer le pas, et on va voir effectivement le fauteuil Bertoia dans tous les intérieurs, photographiés par les architectes ou les revues de décoration, avec des vrais meubles anciens, et pas du faux ancien. Hein, donc on va jouer le contraste, et effectivement, c'est un glissement quand même vraiment marquant par rapport à la démocratisation. Hein, effectivement, ce qui va peut-être tuer ce style de reconstruction, c'est qu'il deviendra le style HLM, quelque part. On n'en veut plus, voire même le style des pays de l'Est. Hein, parce qu'on sait que dans les pays de l'Est, ce style-là, c'est amusant de faire visiter l'appartement témoin à des gens qui viennent d'Europe de l'Est. Ils disent, oh, mais ça, c'est ce qu'on avait. Enfin, voilà, c'était évident dans les années 80, voire 90. Même aujourd'hui, hein, je pense qu'on en produit toujours, ça deviendra effectivement presque un style rouge. Dans les années 60, ça passe plus, hein, évidemment. Donc on va reculer par rapport à ça.
Et puis la volonté de convaincre aussi, la volonté de séduire de la part des designers, ça c'est une chose, mais aussi tout simplement de ces industriels qui produisent ces meubles. Et ce n'est pas mal de passer par la publicité.
Fils a des dons véritables pour faire une palette de sa table sous l'œil attendri de mon mari qui dit je vais chercher mes outils.
Voilà outils, voilà outils.
Armé d'une scie d'un pot de colle, il découpe faux et pignol un beau panneau de revêtement en deux temps et trois mouvements. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
C'est formidable
Conquis par cette réussite, il décida d'y donner suite et convoqua le menuisier pour transformer tout le mobilier.
C'est formidable,
la salle de bain à la cuisine, sans cesse on le voit qui usine, coupant par-ci, collant par-là, fondant partout du formica. Mon Dieu quel bonheur d'avoir des panneaux formidables. Mon Dieu quel bonheur d'avoir des panneaux formica.
C'est formidable.
Publicité, Formica en 1958 qui reprend la chanson de Patachou, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Ici, nous avons du Formica, Stéphane Laurent, parce que l'histoire qui nous intéresse pour meubler son intérieur, c'est l'histoire de la fabrication du meuble, de la manière déjà dont il a été pensé, puis des matériaux utilisés. Le Formica, bon, je pense que nous avons tous vécu cela, mais ce Formica-là, c'est une audace aussi, au moment de se dire, je vais remplacer ma cuisine, je vais mettre du Formica. C'est vrai qu'un coup d'éponge, et c'est tout de suite nickel, par rapport au bois.
Oui, voilà. Alors en fait, c'est une évolution de l'intérieur qui passe, disons, d'une configuration assez traditionnelle. Alors sous forme d'appartements bourgeois d'une part, et pour des habitats ouvriers avec beaucoup moins de pièces. Quelquefois, on vit même dans la même pièce. Hein, ça dépend un peu du niveau de revenu. Et ce qui va changer et ce qui va en fait concerner l'ensemble de la société. C'est une conquête de l'hygiène, une conquête de la praticité, de la fonctionnalité, de un mot plus savant, l'ergonomie. Et du coup, les deux, on va vouloir de l'air, de l'espace, de la lumière, etc., de la praticité. Et du coup, ces intérieurs, en fait, ils ont désormais des pièces d'eau, alors que c'était vraiment peu le cas auparavant. On vivait dans des conditions quelquefois très compliquées, très même à la limite du sordide. Et évidemment, dans ces cas-là, ces pièces modernes, finalement, comme elles sont très fonctionnelles, avec des équipements, là, le Formica, c'est l'idéal. Parce que ça répond à ces normes d'hygiène, à cette volonté d'utiliser un espace complet, avec un four, avec un plan de travail, avec une plaque de cuisson, etc. Donc, on a ces intérieurs qui vont vraiment évoluer. On a aussi beaucoup la question du rangement qui est traité avec des rangements encastrés qui sont souvent prévus dans les nouvelles constructions et ou qui sont proposés par les designers. Et c'est un des grands succès d'ailleurs des designers que de proposer ces éléments de rangement modulaire. C'est peut-être d'ailleurs un de leurs plus grands succès dans le mobilier en bois à côté du Formica.
À côté de ces très très beaux meubles qui ont pu être évoqués aujourd'hui, c'est vrai que le fauteuil Bertoia, qui est ce fauteuil, alors on est bien dedans, mais ça peut être quoi, en métal un petit peu, ouais, vous faites les yeux au ciel, Pierre Jancet, au moment de dire on est bien dedans, c'est vrai que parfois on peut en douter. Mais là c'est l'esthétique qui compte. Et le confort, pourquoi pas. Mais le design, c'est aussi tout ce que l'on évoque là. C'est dans la cuisine, la petite tablette qui sort, la table qui a ses rallonges avec le tiroir. Ce sont ces immenses succès dans les années 1950-1960. Gain de place et le côté pratique.
Exactement. Alors je dirais qu'il y a quelque part une extension du domaine de la femme, puisque c'est elle qui va un peu imposer cette idée d'hygiène, etc. Alors la femme, regardée par les hommes évidemment, hein, Gascoin travaillera avec des spécialistes de ce qu'on appelait l'école ménagère pour mettre ça au point. Alors tout ça est ringardisé énormément aujourd'hui, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, ça aurait dû être étendu aux deux genres plutôt que d'être exterminé. Mais bon, c'est voilà, on va éliminer cette pensée-là. Mais il n'empêche que voilà, le Formica, c'est formidable. Hein, je fais la pub parce que on peut passer un coup d'éponge, mettre même une casserole un peu chaude, ça tient. Et ça, c'est une révolution par rapport aux meubles qu'on présentait. La reconstruction qui était encore cirée, c'est un vrai changement. Alors on va jouer là-dessus, sur cette femme ménagère, je pense aussi à la desserte roulante, hein, que tout le monde va acheter. C'est un peu le transpalette, hein, de la ménagère. Voilà, on est dans un espace industrialisé dans sa pensée. On pense l'espace domestique comme un espace industriel aussi. On rationalise beaucoup, hein, le mot rationnel revient beaucoup. Hein, Gascoin fonde l'aménagement rationnel de l'habitation et des collectivités. C'était le nom de son atelier. Alors effectivement, il y a une grosse concurrence qui va se créer avec le design tel qu'on l'entendrait presque aujourd'hui. Parce qu'il y a un changement de société aussi, on passe d'une économie de production, hein, qui va marquer jusqu'aux années 70, à une économie de commercialisation qui n'a plus besoin de produire sur place, qui va plus du tout se poser les mêmes questions. Voilà, après-guerre, on n'a pas d'acier, donc on fait sans acier. Dans les années 60, on va aller chercher l'acier partout, on va mondialiser la production, et puis finalement, on fera la marge plus dans le commerce, hein, plutôt que de la faire dans le produit lui-même. Donc c'est assez intéressant de voir ce changement économique qu'aujourd'hui on voit qu'on appelle la désindustrialisation, hein, qui va se produire. Mais là, j'entame peut-être un peu trop loin dans le temps. Donc, je vais laisser Stéphane Laurent réagir.
Stéphane Laurent.
Oui, alors il y a dans l'ombre de tout ça, il y a le salon des arts ménagers. Hein, qui joue un rôle de stimulant assez extraordinaire. C'est visité par des millions de personnes et ça stimule tout l'équipement, ça provoque une sorte de rêve, ça suscite un appétit de consommation d'objets et d'équipements. Et également, il y a effectivement des femmes qui s'engagent aussi, comme Paulette Barnège, par exemple, dans la cuisine rationnelle, qui travaille avec Marcel Gascoin. Marcel Gascoin qui est vraiment l'apôtre de cette fonctionnalité dans les rangements, dans les espaces en général. Donc on a cette poussée, puis ces revues, tout ça qui pousse dans ce sens. Les modernistes ont un petit peu de mal. Alors on parle de la génération des jeunes loups, donc c'est Pierre Gauthier-Delay, c'est Alain Richard, c'est André Montpois, voilà, il y a toute une génération de jeunes designers qui passent beaucoup par l'agence Gascoin d'ailleurs, et qui sont diplômés d'écoles comme l'école des arts décoratifs, l'école Boulle, etc., et qui cherchent à éditer des modèles, beaucoup aussi dans le luminaire, qui est un secteur qui est très dynamique à cette époque-là, dans les années 50, et qui vont donc proposer tout un tas de solutions, notamment Pierre Gauthier-Delay, par exemple, les meubles week-end qui vont avoir beaucoup de succès. Mais là encore, on est dans le rangement essentiellement. Et Formica, c'est une entreprise américaine qui est implantée dans les Pyrénées et qui produit donc un revêtement sous licence. Voilà, donc c'est un petit peu les contrastes qu'on va trouver à cette époque-là dans l'aménagement.
Avec aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, meubler son intérieur, une histoire utile et agréable.
Reconstruire, construire, aménager. Voici « Quand le bâtiment va », une émission de Frédéric Potcher.
Nous avons le plaisir d'avoir devant le micro de Quand le bâtiment va, monsieur Michel Bataille, qui a été un écrivain, un journaliste et qui maintenant est architecte, n'est-ce pas, monsieur Bataille ?
Oui, en effet.
Bon, et puis nous avons aussi Jean Prouvé, qui est un homme de l'Est, c'est un homme d'usine, un homme d'atelier, un homme qui a grandi dans le fer et le charbon. Je voudrais d'abord vous demander, monsieur Prouvé, comment vous êtes venu à faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire à construire, à penser à construire des maisons, surtout avec un matériau métallique. Pourquoi ?
Mon métier initial était un métier de forgeron, mais c'est en travaillant dans l'acier que le bois d'ailleurs, accessoirement, qui m'est venue l'idée de construire. Il m'est très vite venu l'idée d'adapter à l'habitation les techniques du moment.
Ah, bon.
Qui, à cette époque, n'étaient réservées qu'à la mécanique.
Nous étions en 1955 avec cette archive où l'on entend Jean Prouvé, qui a travaillé avec celui qui a... souvent été cité dans cette émission, Marcel Gascoin, le décorateur, les meubles en série. Pierre, j'en sais, qui est Jean Prouvé dans cette histoire ? Parce que Jean Prouvé, et nous l'entendons, il est dans une émission sur la reconstruction. Et lui, c'est le métal, entre autres.
Alors oui, c'est une légende aujourd'hui. Alors d'ailleurs, à propos de l'UAM, des gens comme Charlotte Perriand, des gens qui écrivent souvent leur légende, leur propre légende, et qui vont être des grands instruments pédagogiques, hein, sur cette façon de concevoir rationnellement les choses. Hein, Jean Prouvé, effectivement, on retient la résistance mécanique de la tôle pliée, par exemple, qui est extraordinairement économe, et puis en même temps qui donne des formes nouvelles, donc il va vraiment réinventer des tas de formes de meubles. Mais effectivement, il est un peu décroché de la reconstruction parce que il n'y a pas de métal, hein. Donc on peut juste en mettre dans les ferraillages du béton, mais après c'est difficile. Alors il refera carrière bien sûr après, mais ça restera Perriand Prouvé. On trouvait ça, on va dire, dans les beaux quartiers parisiens ou dans les magasins de luxe, mais ils n'arriveront pas à démocratiser. On parlait de Gauthier Delay, lui il va y arriver, il était chez Raymond Lévy au début. Et voilà, c'est un homme vraiment de la communication, de la diffusion. Il sait dessiner des meubles facilement. Et puis, il y en a d'autres qui restent dans l'oubli. Alors, je travaille en ce moment sur un décorateur, j'y vais, Gustave Gauthier, qui est très intéressant parce qu'il était UAM. Il va présenter au Salon des Arts Ménagers tous les ans.
L'Union des artistes modernes, l'UAM.
Voilà, pardon, oui, l'UAM, oui, voilà. L'Union des artistes modernes, dès l'avant-guerre. Il part 5 années en camp de travail en Allemagne. Ça le marque énormément, les dortoirs, tout ça. Et il va vouloir recréer des ambiances vraiment dans l'esprit d'une architecture intérieure assez cossue. Il perdra jamais la ligne, on va dire, des premiers décorateurs modernes, d'englober l'architecture, etc. Donc finalement, une vue plus architecturale. Et pas de l'objet, forcément. Donc c'est important de voir cette diversité. Alors Cécile Tajan avait écrit un petit essai sur l'UAM, où elle disait que finalement, c'est presque une affaire d'ego, parce que voilà, il y a des jeunes, c'était déjà les jeunes loups de l'époque, on va dire, qui essaient d'écraser les vieux décorateurs pour dire, mais nous, on fait de l'architecture. Un vieux combat, hein. D'ailleurs, l'architecture et la décoration, voire le design, hein, c'est des choses qui se disputent. Et bien sûr, Jean Prouvé est au cœur de tout ça. Et lui, il bénéficiait d'une région de forge. Donc, il était très sensible au métal, effectivement, à Nancy. Et ça va l'aider, on va dire, après à franchir les années 60, surtout, en fait. Mais post-reconstruction, plutôt, je dirais, que la reconstruction elle-même, où il est écarté. Tout le monde en voudra, d'ailleurs, à l'administration, qui dira ben, qu'il le mettra de côté, comme Le Corbusier, d'ailleurs, hein, sans compter les gens qui n'en voulaient pas non plus. Ben, voilà, il y a des rejets aussi, et le style plus, on va dire, des palais nationaux, on connaît d'Auguste Perret, passera plus facilement, finalement, à la fois plus économique, sur le moment, du moins, et puis également, ben, qui plaisait plus par les finitions, etc., quelque chose de plus conventionnel, plus classique, hein, c'est le cas de Perret. Je vous laisse...
Oui, alors l'histoire du métal, c'est une histoire compliquée hein, dans le mobilier. Au départ, le métal, c'est de l'orfèvrerie, c'est la galerie des glaces, c'est le mobilier Louis XIV qui a été fondu pour les besoins de la guerre à la fin du règne. Ensuite, ben il réapparaît un petit peu. On a du mobilier à la Révolution. On parle d'ailleurs de serrurier, on ne dit pas des forgerons, on dit serrurier. Donc on a quelques lits en métal comme ça. Donc c'est une histoire très très marginale. Et puis il y a une espèce d'engouement dans les années 30 pour le tube. Et là c'est une approche internationale dans laquelle s'inscrit l'UAM, contrairement à l'Art déco qui est un petit peu plus chauvin. L'UAM finalement prend la température, si je puis dire, de ce froid du métal qui est un signe de modernité, qui est celui du monde de l'ingénieur, de l'usine, et qu'elle entend imposer, et pour remplacer le monde de l'artisanat. Donc c'est aussi un symbole. Jean Prouvé, lui, il va pas faire du tube, il va faire, comme l'explique Pierre Jancet, de la tôle pliée. C'est quelqu'un qui est une formation de forgeron au départ. Il est le fils de Victor Prouvé, hein, une des grandes figures de l'art nouveau à Nancy. Et effectivement, il va avoir une activité à la fois d'architecture et dans le mobilier. Et il comprend très vite qu'en fait, le métal, c'est une affaire de collectivité. C'est-à-dire, c'est une production qui va permettre de faire beaucoup de mobilier scolaire, du mobilier pour des collectivités, des cantines, par exemple, etc. Donc, il va vraiment considérer la chose d'une manière beaucoup plus sérielle, mais il va se heurter à certaines difficultés. Effectivement, le problème de la production d'acier dans l'après-guerre, la faveur qui est donné au bois, l'outil industriel qui n'est pas forcément là, des compétitions, des rivalités avec d'autres fortes personnalités de l'époque. Il va d'ailleurs faire faillite hein, au début des années 50. Il n'est pas tout seul, il y a des associés. Donc il va travailler un peu en solo après. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Il va faire des projets d'habitations qui peuvent être démontable pour les sans-abri, pour l'abbé Pierre, pour également à l'époque pour ce qui est encore les colonies. Donc il fait des choses comme ça, mais c'est un peu compliqué quand même.
Stéphane Laurent, le design en France, 2 siècles d'histoire aux éditions du CNRS. Vous avez dit hein, combien cette histoire-là, c'est une histoire de mode et de distinction sociale. On ne veut pas avoir les meubles que le voisin si on le considère d'un niveau inférieur dans la société. Et puis vous nous avez dit combien, mais pendant longtemps, c'était à la cour, au auprès du souverain qui était lancé les meubles qui avaient après qui créaient après le désir d'être copiés, sachant que dans les années 1970, on retrouve un petit peu ça, parce que le palais lui aussi devient vecteur de ce design.
Voici le salon, fauteuil beige en cuir retourné. Ici, comme dans l'ensemble de l'Élysée réaménagé et restauré, on remarque le goût d'un maître d'œuvre. En fait, ils sont deux, le président de la République et Madame Georges Pompidou. L'intention est très visible. C'est l'ouverture dans la continuité appliquée aux choses de l'art. Exemple d'ouverture, parmi les œuvres modernes actuellement présentées, une sculpture abstraite de Harpe, des peintures également abstraites de Kubka, Robert Delaunay et Vasarely, des œuvres de Matisse. Mais la continuité, c'est également les trois salons de tradition dont le réameublement est constitué en fait par un magistral regroupement d'un admirable ensemble mobilier du XVIIIe siècle jusqu'alors dispersé. La plupart des meubles sont signés Georges Jacob, qui fut le premier d'une célèbre lignée de grands ébénistes français. Les trois salons, ainsi restitués, sont le salon des ambassadeurs, le salon des portraits, le salon de l'hémicycle. Du détail ou de l'ensemble, du travail des ébénistes des siècles passés ou du travail des restaurateurs d'aujourd'hui, on ne sait ce qu'on admire le plus en ce palais de l'Élysée, 1972.
L'Élysée 1972 sous le président Pompidou. Pierre Janset, une des erreurs, mais on le sait bien et vous ne la commettez pas, c'est d'imaginer que le style à la mode à un moment est ce que l'on va retrouver dans les appartements du même moment. Il y a toujours des décalages temporels. Et si on va chez les gens, ça ne ressemble pas à l'appartement témoin. C'est cette idée d'accumulation aussi. L'armoire de Mémé, elle est toujours là, à côté du dernier petit meuble qu'on a acheté et qui, lui, ressemble pas à l'armoire de Mémé.
Exactement. Et on va avoir effectivement une distinction qui va se recréer vraiment. C'est presque une crise post-industrielle, post-moderne, en remettant des meubles anciens, en recherchant les meubles Jacob. Les gens, effectivement, d'un côté, on va dire des paysans vont se débarrasser de la vieille armoire pour acheter du formica, et de l'autre, des périurbains installés dans leur pavillon vont acheter l'armoire normande, une fortune à l'antiquaire qui avait fait le troc. On le sait, ça a marché comme ça quelques années, et 72, je pense qu'on est à peu près dedans. Et puis en même temps, il y a l'urbain, le prix unique, on va dire, qui va arriver, le plastique qui commence à... Alors, il est sûr même sa fin, puisque après 73, ça va commencer à être réinterrogé. Mais voilà, on est dans les années plastiques aussi, donc une modernité qui va se diffuser en masse. Donc voilà, il faut quelque part créer de la modernité chic, avec des grands noms, même des décorateurs français. Alors, Madame Pompidou était connue pour son bon goût. Voilà, donc on a toujours cette idée-là de recréer du chic. Mais voilà, ça se démocratise vraiment, le design, à cette époque-là, même s'il est plus produit à échelle nationale, comme pouvait l'être à la Reconstruction.
Oui, parce qu'ici, nous avons une histoire qui s'écrit dans l'atelier du designer, qui se développe à l'usine ensuite, quand il faut fabriquer, au magasin, bien sûr, et puis chez les gens. C'est-à-dire que écrire cette histoire du design en France, Stéphane Laurent, ce n'est pas seulement regarder les courbes des meubles et les lignes pour les pieds, c'est beaucoup plus large que ça.
Oui, absolument. Donc, c'est évidemment regarder aussi l'aspect commercial, l'aspect industriel. C'est vrai que dans les années 60, ce phénomène d'édition, il est plus présent. On a plus d'éditeurs pour les jeunes créateurs, pour les créateurs en général, pour les designers. Et on a ce phénomène prise unique, qui est un phénomène qui a été un peu, mis en avant. Mais en réalité, si on est un peu plus critique, on se rend compte que c'est quand même un échec. Donc le prise unique, c'est au départ la centrale d'achat d'un grand magasin. C'est aujourd'hui Monoprix. Il y a une relation entre les deux. Quelquefois, avec les éditions déco de Monoprix, on retrouve un peu ce substrat de prise unique. C'est l'appel à toutes sortes de designers plus ou moins jeunes, français et étrangers, pour créer des collections qui sont une collection de design diffusée beaucoup plus largement. largement et avec comme cible cette jeunesse du baby-boom et en exploitant beaucoup le plastique qui à l'époque est pas cher et tout ça va s'effondrer avec la crise pétrolière de 73-74 et là le catalogue Prise Unique va disparaître. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que la production ne suivait pas. Il y a une production en France de plastique qui se met en place, mais c'est la commande de Prise Unique qui est problématique, qui n'est pas assez audacieuse, qui n'est pas, il n'y a pas de suivi de fabrication, etc. Donc c'est plus une utopie ou une volonté qui reste un peu inachevée. Mais effectivement, dans les années 60, l'outil de production évolue. Il y a plus d'éditions. On travaille beaucoup le plastique. On voit arriver la mousse synthétique aussi qui envahit tous les sièges et qui remplace le crâne cheval et qui permet des formes très très audacieuses, notamment chez Pierre Paulin, comme à l'appartement de l'Élysée qui est meublé par Pierre Paulin pour le président Pompidou, ou bien encore on voit dans le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, les sièges jeans d'Olivier Mourgue et qui sont avec des effets de vagues au ras du sol, et tout ça c'est des formes qui sont permises par cette industrie du plastique, de matière de jersey, donc de tissu artificiel, etc. Et également, faut pas oublier qu'il y a une structure en métal aussi en dessous qu'on voit pas, mais il y a aussi l'affaire du métal qui bouleverse donc les formes et apporte et popularise ce design. Et puis bon, ce modèle de l'Élysée qui va essayer de servir un petit peu de diffusion large pour l'ensemble du public.
Bon, Pierre Jancet, quand vous venez à la Maison de la Radio, historien du design, vous frétillez, j'imagine, parce que ici, 1960, enfin, les années 60, et puis ce qui suit, tout est design, hein, c'est un musée ici.
La maison ronde est ronde de partout, effectivement, avec Paulin qui intervient. On a vraiment envie de s'asseoir, hein, c'est agréable. Et effectivement, on est quand même dans des années... Alors c'est toujours un peu porté par l'État, hein, la Maison de la Radio... L'ORTF, quand même, était assez marqué. Donc, c'est toujours associé à des grands projets d'État. Il y a une propagande derrière, un peu comme les grands paquebots. Hein. On va dire que c'est le paquebot, la radio, le paquebot des ondes. Mais voilà, on est dans cette idée-là.
Et puis, la comparaison maritime est efficace parce que, dans l'histoire du design, pour meubler petit, c'est vrai que, eh bien, la navigation, c'est intéressant. Hein. Le petit meuble, comment on s'adapte à tous les espaces. Je voudrais juste, pour finir, parce que nous sommes sur France Culture, avec une grande attention accordée au vocabulaire, sur ce mot design, il n'y a pas d'équivalent en français tout de même que ce design, le stylisme. Oh là ! Alors dites-nous, Stéphane Laurent, on sent que c'est dur à manier.
Ouais, c'est très dur à manier parce que on a eu des tentatives. On a eu par exemple la stylique. Donc ça, je crois que c'est l'Académie française. Puis il y a eu la loi Toubon sur la francophonie aussi. Donc il y a des tentatives comme ça. Plus récemment, dans les années 80, on a eu la tentative création industrielle qui, pour les ingénieurs, les prive. Alors qu'en fait, la création industrielle, c'est bien plus large que le design, hein, c'est tout simplement les brevets. Et donc on a par exemple une école là qui s'appelle, qui est la plus grande école de design en France, hein, qui a été créée à ce moment-là, qui s'appelle l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI. Voilà, donc il y a une tentative de traduction, mais voilà, dans les années 2000, on peut pas faire autrement. Bah finalement, on cède et puis voilà, c'est le design. Et encore, et on voit donc l'État s'adapter progressivement dans son vocabulaire, dans ses écoles. Mais enfin, il y a encore des traces de choses un peu anciennes. L'École nationale supérieure des arts décoratifs.
Ah bah oui, ça reste.
L'ENSI. Voilà, donc on garde des vieilles appellations. C'est une affaire qui est très ancienne, parce qu'à la fin du 19e siècle, on cherchait déjà un bon vocabulaire.
Bah voilà, et on le recherche toujours. En tout cas, le design en France, deux siècles d'histoire. Stéphane Laurent, c'est votre ouvrage. Quant à vous, Pierre Jancet, bah, il y a par exemple ce mobilier design pour enfants ou encore l'utopie domestique intérieure de la reconstruction. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire nous arranger tout ça. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et oui, le cours de l'histoire, c'est une série consacrée aussi à l'histoire de la maison gauloise. Serait-ce la hutte finale au design, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vieilles, j'ai de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité.
La maison près de la fontaine, Nino Ferrer, la maison ronde est près de la rue de la Fontaine. Ça tombe bien, c'est le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Jean-Guilain Meige. Émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayo Nguizhou. Émission à écouter et à podcaster bien sûr sur franceculture.fr et l'appli Radio France.